Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Hello tout le monde et bienvenue sur indestar.fr ou sur les autres applis d'écoute en ligne, hein, que où que vous soyez. Et quoi que vous fassiez, vous êtes peut-être en train de faire le repas en ce moment ou... J'allais dire profiter des derniers rayons du soleil parce que...
LOL.
Alors, il y en a peu. Là, non, mais ça dépend
y
où
en
vous
a
êtes.
Pas.
Non, ça dépend où vous êtes sur la planète.
Oui, mais là, il y en a pas.
Pas chez nous. Ça commence à se coucher. Ce qui est normal au bout d'un moment, mais les jours rallongent quand même. Et à la fin de la semaine en France, en tout cas, en France métropolitaine, ça va se gâter.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on va avoir un temps de merde.
Ah bon ?
Bah oui, on a eu printemps deux jours, on va pas non plus l'avoir une semaine.
J'en voulais pas du soleil, moi, je voulais de la pluie.
C'est vrai que toi, tu veux de la pluie et du froid, c'est comme ça que tu marches.
Tu sais ce que je veux aussi ?
Je sais pas.
Un sondage.
Ah bon ? Alors allons-y pour le sondage.
Starter, le sondage.
Alors vous avez posé cette question il y a deux semaines, hein, juste avant les vacances, sur les réseaux sociaux, page Facebook Indestar ou compte Insta Indestar Radio. On vous avait posé cette question-là. Votre prochaine voiture, vous la préférez ? Plus durable ou
qui roule.
Moins cher ou qui roule. Non, c'est juste dire. Non, mais fallait choisir quoi. Plus durable ou moins cher. Et vous avez été les trois quarts à choisir plus durable. Voilà. Donc vous êtes prêts, on est prêts quelque part, à payer un peu plus cher. Alors dans la réalité des faits, des fois c'est un petit peu compliqué, mais dans l'idée, on est prêt à payer un petit peu plus cher, mais il faut qu'elle dure la voiture quoi.
Ah, et puis dans la réalité des choses, effectivement, comment savoir si une voiture est plus durable qu'une autre ? C'est un peu plus compliqué.
Oui.
Parce qu'ils vont pas le mettre en avant. Oh, ma voiture, elle tire pas la route.
Elle est 25% plus durable que la dernière. Après, faut le vérifier. Non, tu peux la vérifier avec des garanties ou des choses comme ça. Tu vois, déjà, ils ont largement étendu les garanties constructeurs. Maintenant, on est passé sur du 7 ans, voire 10 ans de garantie pour les marques.
C'est vrai que t'achètes beaucoup de bagnoles neuves.
Non, personnellement non.
Et tu vois,
c'est plutôt une garantie de garantir une voiture 10 ans. Ça veut dire que quelque part ils sont sûrs d'eux et ils vont pas, ils s'aventurent pas à se dire bon, on garantit la voiture 10 ans si elle tient que 5, tu vois par exemple.
Ça parle. Tu vas pas de me. Enfin, le vendeur, il va pas de me dire que c'était une super bagnole.
Ah bah si, évidemment.
Ah ouais. Elle est pas censée tomber en panne, hein, donc bon.
Non, elle est pas censée tomber en panne. Mais justement, ils te le prouvent en t'offrant des garanties supplémentaires.
Ça parle des choses qui fâchent, je trouve.
Donc pourquoi pas. Mais merci d'avoir voté. Hein. On vous posera bien entendu un nouveau sondage à la fin de cette émission sur les réseaux sociaux. Il faudra voter en masse et on aura le débrief la semaine prochaine. Les brèves.
Starter, les brèves.
Je t'ai même pas posé la question si t'avais roulé ces deux dernières semaines, Teddy.
Bah oui, forcément. Pour le coup, j'allais au boulot, moi.
Alors sans perdre de points.
Ah oui, ouais, sans perdre, j'aurais même récupéré.
T'en as gagné.
Eh oui.
C'est comme au loto, t'en perds et t'en gagnes.
Est-ce que j'ai fait ça ? Oui, si, on en a pas parlé, mais j'ai fait un stage de récupération de points. De points parce que c'était dans le sud. Non, pas du
non,
tout.
Non, pas du tout.
C'est à 5 minutes de chez moi.
Oui, donc l'idée, t'étais plus qu'à un petit point avant la défaite.
Oui, si on veut, je sais pas encore.
Avant la destitution.
C'est pas sûr.
Ouais.
C'est pas
parce
sûr.
Parce qu'il y a un délai.
Il y a un délai assez énorme en plus, et puis même quand j'ai demandé, parce que vous pouvez faire ça en fait, si vous voulez savoir votre solde de compte.
Tu vas sur un site
Télépoint par exemple. Beaucoup de gens vont sur Télépoint, mais Télépoint n'est pas pareil que la préfecture.
Ouais.
C'est pas géré par le même truc, et du coup ils sont pas au même stade, on va dire, de connaissances.
D'actualisation des données.
Mais c'est clair. La trésorerie aussi peut savoir votre nombre de points, ils sont pas au même stade que la préfecture ou que c'est un bordel monstrueux. Il y a plein d'organismes.
La trésorerie, c'est la
trésorerie publique.
Le trésor public,
le trésor public, pardon. La trésorerie, la trésorerie. Oui,
ça c'est mon compte. Ça compte là, c'est...
parce que tous ces gens-là, ils sont actifs quand vous perdez des points.
Ouais. Ils ont leur implication quelque part.
Ils ont leur voilà. Ouais. Le mieux, c'est de s'adresser à la préfecture, vous leur envoyez une photo de votre carte d'identité et une photo de votre permis, c'est logique, et vous leur demandez un petit message. Ouais, coucou, c'était dit, j'aimerais avoir mon solde de points.
En fait, j'ai combien de points, savoir si je peux faire de la merde sur la route ou pas.
Mais c'est totalement ça, en plus. Ouais. J'ai vraiment écrit un truc genre à l'Hologan et ils m'ont envoyé une photo, un truc pro.
Ouais.
oui. Avec tout mon historique.
D'accord.
De toutes les infractions que j'ai commises jusqu'au début.
D'accord.
De mon permis.
Ok.
C'est génial.
Et il en résulte quoi, t'en as combien ?
Il en résulte qu'il n'y a pas tout dessus, il n'y a pas les dernières.
Ah oui ?
Il y en a certaines. Okay. Donc techniquement, je suis pas.
Ouais. Mais bon, t'as choisi quand même de récupérer des points histoire d'être un petit peu plus
dans
tranquille
le doute,
de ce côté-là. Ouais.
Parce que j'ai perdu 6 points d'un coup. Je me pose même pas la question combien j'ai de points. Mmh. J'ai encore le permis, donc ça va.
Enfin, pas 6 points d'un coup, 2 fois 3 points. Quoi.
Oui, ouais. Mais en une semaine, ça fait presque 6.
En une semaine, ça fait beaucoup.
Donc je me dis, récupérer 4 points pour en perdre 6, enfin, c'est cool. Ouais. Voilà.
Le mieux pour ne pas perdre de points, c'est d'être vigilant sur la
route. Pas avoir le permis.
Ah, ou de pas avoir le permis.
C'est ouais, c'est, franchement, c'est le plus efficace.
Oui, bah, c'est sûr, comme ça, tu perds pas de points. Hein. Ouais. Les brèves du jour, on a été chercher dans l'actualité ce qui se passe un petit peu. Il y a notamment le salon automobile de Lyon. Alors, pas sûr que ça vous parle, c'est moins connu que Genève ou que le Mondial de l'Auto de Paris, mais au moins, il a eu lieu cette année, le salon automobile de Lyon, contrairement aux autres.
Il y a
Seat là-bas. Pourquoi ?
La Seat Lyon.
Léon comme... Ouais, c'est tiré par les cheveux, cette
histoire. Oui, totalement.
Il s'est terminé ce soir, le salon automobile de Lyon, et pour le coup, pas mal de nouveautés exposées. Alors, par exemple, sur le stand Renault, on avait la nouvelle Mégane électrique. Vous savez, celle qui est très bien construite, qui a un bel écran, un réactif à l'intérieur, un bon plaisir de conduite, une bonne autonomie, mais une recharge merdique. Faire le topo de la nouvelle Mégane. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal en vrai. Enfin, je l'ai pas essayé, mais tous les avis sont positifs. Sauf la recharge. Et la recharge, elle est problématique parce que si tu mets 4 heures à recharger ta bagnole et que t'es en vacances,
c'est chiant.
C'est chiant, on est d'accord. Il y avait pas l'Austral par contre, le nouveau SUV qui va remplacer le 4GR là. Il n'était pas présenté au salon. Chez Citroën, il y avait la C5X sur 1000 tchèques entre une berline, un break et un SUV. Ça en fait une voiture surprenante. La grande berline de chez Citroën. Il y avait aussi le C5 Aircross restylé. Alors lui, il est moins surprenant pour le coup. C'est juste une version restylée du C5 Aircross. À côté chez DS, il y avait la DS4, la belle DS4, qui était à côté de la moins belle DS9, qui a avant tout été fabriquée pour la Chine, mais qui est vendue chez nous. Il y avait le concept DS Aero Sport Lounge, qui est un gros SUV coupé électrique qui devrait sortir dans 2 ans. Voilà, il est exposé en version prototype là-bas.
Il y a deux mots que j'aime pas là-dedans, SUV électrique.
Ouais, et puis déjà coupé SUV, oui, déjà, SUV ça aussi, marche j'aime pas pour moi. Mais bon, après c'est perso. Chez Peugeot, pas grand-chose, mais quand même le 308 SW, donc la version break de la 308, que je trouve très belle, même mieux que la berline en version break.
J'aime bien les
Ouais, non mais il est vraiment bien. Et puis les autres marques étaient là aussi, il y avait Maserati avec en avant-première le Grecal.
Le Grecal,
c'est un SUV. Honda avec la première sortie de la Civic 11e génération.
On est Honda Civic ?
Ouais.
Vraiment ?
Pourquoi ?
Je sais pas, je pensais que c'était mort ça.
Ah bah non, elle est toujours là. 11e génération de Honda Civic. Première sortie aussi du Kia Niro. Et puis de la nouvelle Astra, du Range Rover. Plein d'autres choses qu'on va croiser. Enfin, d'autres voitures qu'on va croiser sur nos routes dans les prochaines semaines.
Le Kia Niro.
Pourquoi ?
Il a intérêt d'être noir.
Parce que Niro, c'est noir ?
En japonais.
En japonais ?
Ouais.
Il sera pas que en noir, je pense pas.
Il doit être en noir.
Ouais,
bah, rien tu l'achèteras
en noir si tu veux, ça serait. je crois que c'est un SUV électrique.
Non, je crois que. Enfin, si je me rappelle bien, je crois que j'avais déjà vu le. Enfin, pas le prototype, mais le fait qu'ils allaient le lancer. Mm-hmm. Ils avaient pas mal de petits éléments en noir. Ils avaient aussi du jaune et du gris, j'en avais parlé, je crois.
Ah ouais, mais ça c'était peut-être dans le concept car.
Oui.
Pas sûr que ça se retrouve sur la version de série.
C'est vrai.
Ce soir dans Starter, l'aventure d'un échec, ou je devrais même dire d'échec multiple, saut de la voiture amphibie.
Ça fait plouf.
Ça fait plouf, ouais, exactement. Alors comme son nom l'indique, qui dit voiture dit que ça a des roues et que ça peut rouler sur terre, et qui dit amphibie dit que ça peut aller sur l'eau.
Ah non.
Voilà, non, pas, c'est pas un batracien, c'est un amphibie.
C'est une Twingo.
C'est une... non, la Twingo malheureusement ne va pas sur l'eau. Elle va sous l'eau mais elle va pas sur l'eau.
C'est la seule grenouille pas amphibie.
C'est vrai, c'est vrai. Donc tel un bateau, une voiture amphibie peut aller sur l'eau. Alors c'est on va dire que c'est un bootleg, c'est un mashup. Et quand on y réfléchit, on se dit que c'est autant une idée bizarre que finalement un vieux fantasme.
Un peu inutile, ouais.
Qui serait de pouvoir aller partout. Si en plus elle pouvait voler, ça serait magnifique. Mais bon, là c'est pas forcément le cas. Ce qui est étonnant, c'est que la première voiture, entre parenthèses, parce que elle existait avant les véritables voitures à moteur, la voiture amphibie, la première, elle date de 1804. On est quasiment 100 ans avant Renault, Peugeot, Citroën et compagnie, où je devrais même plutôt parler de Ford, puisque c'est
un bateau
américain.
Oui. Avec des roues.
Ouais, c'est ça. Alors, c'était inventé par Horructeur. Ah non, ça, c'est le nom du modèle. L'Horructeur Amphibolos. Amphibolos. Amphibolos, ouais, c'est ça.
D'accord.
De monsieur Olivier Evans.
L'Amphibolos.
Oliver Evans, plutôt. Ouais. Qui est un inventeur un peu touche-à-tout parce que il faisait des moulins, il faisait des choses comme ça. Et là, il s'est dit, eh, tiens, si on prenait un chariot.
Et qu'on mettait des roues de moulin dessus.
Qu'on prenait une machine à vapeur pour avancer le truc et une roue à aube, comme on voit sur les moulins, pour la faire avancer dans l'eau, ça ferait une voiture amphibie. C'est en tous les cas le premier modèle. Bah, alors évidemment, c'était pas tellement abouti, hein, c'est hyper long. Rien que le moteur.
Ça coule
Non.
Dommage.
Non, ça flotte. Ça flotte. Mais le moteur, il prend quand même 9 mètres de long. Tu vois, donc ça ressemble plus à une péniche à moteur qu'à autre chose. C'est lourd, ça avance pas. Mais bon, ça en fait le premier exemplaire unique parce que il a exposé tout ça, mais il y a peu de gens qui se sont dit hey, ça a un intérêt vraiment particulier ce truc-là.
C'est clair.
Donc bon, les gens ont continué de rouler en diligence. Va falloir attendre un bon siècle, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, pour que ce concept un petit peu crossover refasse surface. Jeu de mots. Il y a notamment un Français qui s'appelle Ulysse et qui est heureux de nous présenter en 1932 une voiture qui ressemble à un bout d'avion mais qui va sur l'eau. Alors faut pas lui en vouloir parce que lui il travaillait pour l'aviation, donc c'est pour ça que ça fait ce genre de choses. Bref, ça fait sensation pour les fêtes foraines. C'est pareil, ça va pas vraiment au-delà. Non, si, il y a De Gaulle à l'époque. C'est pas encore connu vraiment, hein, mais qui était intéressé par ce concept-là.
Alors, outre le fait de l'utiliser en voiture plaisir et tout ça, elles ont été aussi d'une certaine utilité. Alors, pardonnez-moi les Russes, les Allemands, quand ils ont voulu aller attaquer la Russie, à un moment donné, je sais plus si c'est la première ou la deuxième guerre, ils ont utilisé beaucoup de voitures amphibies et ils remercient même les voitures amphibies. Les Volkswagen, les Water Wagon, je crois.
Ouais.
Voilà. Parce qu'il est. Comment dire, c'était la période de dégel. Du coup, il y avait plein de fleuves de boue et tout ça.
Ouais.
Du coup, ils utilisaient leur voiture amphibie pour y aller. Hop, ils fonçaient et ils attaquaient.
Exactement.
Ils étaient contents.
Mais justement, t'as bien introduit la chose parce que au-delà des petits usages qu'on pouvait en avoir avant, c'est-à-dire pas grand-chose.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'une voiture amphibie?
Exactement.
À part pour le fun.
Je veux dire, le marché des pêcheurs, des chasseurs, voire des employés, à la limite, on va dire, des services publics qui sont en terrain difficile.
Oh, ils prennent une barque.
Il y a un autre marché qui va avoir le jour à partir de 39, qui est celui de l'armée, celui de la guerre.
Ouais.
Donc, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale où vraiment les voitures amphibies ont pris leur envol. Que ce soit pour évacuer les blessés, pour ravitailler des troupes, pour partir à l'assaut. Là, pour le coup, c'est génial.
Ils ont trouvé un intérêt. Ouais.
Oui, alors ça surprend pas grand monde parce que tout le monde a sa voiture amphibie, mais ça pourrait, dans l'idée, surprendre l'ennemi. Alors en Amérique, il y a le GMC 6 roues qui a été modifié pour flotter, mais il y a aussi la Jeep, hein, celle qu'on connaît, la Jeep Willys de la Deuxième Guerre mondiale, qui en version GPA est transformée en voiture. En voiture amphibique et qui mine de rien, même si c'est que des petites voitures avec des petites hélices qui avancent à 5 km/h, elle a joué un rôle hyper important dans l'issue du débarquement en 1944, parce que peut-être que sans ces voitures amphibiques on fait le lien, tu sais, entre les bateaux
et
la plage, peut-être que ça aurait capoté, ou en tous les cas ça aurait été plus dur d'aboutir à une issue favorable au débarquement de Normandie.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont même utilisé des voitures allemandes. Des voitures amphibies allemandes.
Ah ouais, pour débarquer.
Et c'est pas la Water Wagon, c'est la Swim Wagon.
Ah ok.
Wagon.
Ah. Alors et justement, ouais, en Allemagne.
Sauf qu'ils savaient pas forcément bien la conduire ou la maîtriser. Du coup, ils utilisaient des prisonniers.
D'accord.
Sauf que les prisonniers, ils sabotaient certains joints et tout pour que ça coule.
Bah oui.
J'adore.
Alors en Allemagne, justement, avant ta Water Wagon, là, il y avait la Triple SG6. Ils en ont fait à peu près 1000 avant de se rendre compte que c'était lourd et pas pratique. Et qu'il fallait obligatoirement une plage où tu sais, une rampe pour pouvoir rentrer et sortir de l'eau. Ce qui, quand tu te trouves avancé chez l'ennemi, c'est plutôt rare. Tu vois.
Au mieux, une 4 roues motrices, c'est plus simple.
Ouais, c'est clair. Scheiße ! On aurait eu une pente là, on les aurait pris en surprise.
Mettez une planche de bois.
Vos gilets de sauvetage, les gars. C'est un peu ça. Bon, donc oui, c'est même pas la Swim, c'est la Sushmwagen. C'est un mot allemand.
C'est celle-là.
Donc c'est un mix entre une coccinelle et une Kubelwagen.
C'est exactement
une petite
ça.
Voiture passe-partout de chez Volkswagen.
Ouais.
15 000 exemplaires de produits hein, dans les usines Bugatti qui, rappelez-vous, avaient été pris d'assaut, réquisitionnés par l'armée allemande à l'époque.
Elle détient même le record de la voiture amphibie la plus produite au monde.
Ouais. Pour les véhicules donc à usage militaire, c'est celle-là qui était la plus produite dans le monde.
En amphibie, il n'y a pas eu de plus ?
Non, mais oui, à usage militaire, mais parce que dans le civil, ça a été moins.
Techniquement, oui, il n'y a pas.
Et puis en Union soviétique, pendant la guerre froide, ils avaient des IL-486 et ils avaient des GAZ-46.
C'est très...
Quand t'allais voir le proprio, hé, hey, salut, ça gaze.
Ça gaze, gaze sur ton île.
Évidemment. Sortie de la guerre, alors ça fait un petit peu comme les avions à cette époque, il a fallu trouver d'autres utilités à ces voitures. Surtout qu'au niveau des militaires, ils ont remplacé par des aéroglisseurs qui étaient
plus pratiques
et puis plus puissants. Donc certaines se sont reconverties en transport de touristes. Par exemple, si vous alliez à l'époque au Mont-Saint-Michel, il y avait la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel en voiture amphibie. C'était possible de le faire. Donc,
on retrouvait à certains événements des voitures amphibies.
Oui. Oui. D'autres ont été des cliniques flottantes. Quand t'habites bien en campagne retirée avec des lacs autour, ça a servi quelque part dans le monde. J'ai pas vraiment d'exemple de territoire, mais ça a eu lieu. Il y a eu des expéditions aussi. Alors par exemple Ben Carlin, qui est un Australien, qui a fait le tour du monde en Ford GPA, donc une voiture amphibie. Il a quand même mis 11 ans le mec. À mon avis, ça lui est pas avancé longtemps. Ouais. Ça lui est pas avancé vite, hein, la Ford GPA.
Alors qu'il y avait un gars, il a traversé en 40 minutes la Manche avec sa. Je sais plus comment ça s'appelle celle-là, mais.
Avec 40 minutes. Oui, bon, la Manche, c'est moins que le tour du monde, mais.
Oui!
Ouais, bon. C'est vrai que c'est plus rapide.
Ça avance à 80.
Le commandant Cousteau aussi avait son amphibie quand il a fait l'Amazonie dans les années
c'est
80.
C'est pas celui des bâtonnets de poisson, ça?
De quoi?
Cousteau?
Oh merde. T'as pas la ref du commandant Cousteau?
Aïe, mais si, aïe. C'est pas un truc de. Pas de film.
Mais commandant
c'est
Cousteau.
C'est un nom que j'ai déjà entendu.
C'est l'explorateur français qui a. Enfin bon. C'est commandant Cousteau, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Non, c'est pas un truc de bâtonnet de crabe, t'es sûr?
Non, mais oublie. S'il te plaît, oublie. Lui, il a traversé donc avec un Iveco 6640G.
Ouais.
Voilà. Et puis, il y a eu des différentes tentatives de rendre ces voitures amphibies comme une voiture classique pour un usage classique. Ça a été compliqué, je vous cache pas.
Achète ça?
Voilà.
À un prix défiant pas toute concurrence, clairement.
C'est exactement ça. Alors déjà, il y a une bataille de technologie, parce qu'il y avait différentes technologies. On a parlé de la roue à aube et de l'hélice. Alors concernant la roue à aube, il n'y a pas eu de suite. On comprend pourquoi. Concernant l'hélice, il y en a eu pas mal. Et notamment pour l'amphibie civile la plus produite, c'est pour ça que là, on revient sur l'amphibie de civile la plus produite, qui est certainement l'une des amphibies aussi les plus jolies, c'est l'Amphicar, qui a été produite entre 1960 et 1965, qui est un joli petit cabriolet de place, façon, on va dire, Cadillac miniature.
4000 exemplaires.
Ouais, c'est ça.
Moteur de Triumph, la 770.
Exactement.
Donc,
dessus de Cadillac, dessous de bateau, avec un moteur de 38 chevaux. Alors, pour emmener les plus d'une tonne de la voiture, ça doit pas être un foudreau de guerre. Et dans l'eau, tu dépasses pas les 12 km/h parce que c'est une hélice qui entraîne le tout. Mais bon, 4000 exemplaires, c'est pas ouf comme ça, mais c'est vrai que dans le milieu de la voiture amphibie, c'est énorme. Il y a eu plus performant, cela dit, quand on remplace l'hélice par un moteur hydrojet. Donc le moteur hydrojet, c'est ce qu'on a par exemple dans les jet skis. Là, les roues se rétractent en fait quand t'arrives dans l'eau, et c'est l'eau qui est pompée par.
Par des pompes.
Wow. Voilà. Mis en pression par un rotor et expulsé à grande vitesse, qui te propulse toi à 70 voire 80 km/h, ce qui fait à peu près 25 nœuds si vous parlez le Popeye, hein. C'est nettement plus jouissif que la voiture à hélice. Par contre, ça marche mal à basse vitesse. Tu sais, t'es toujours en train de vouloir accélérer quand t'as un hydrojet, parce que sinon c'est.
Ça avance pas vraiment.
Ouais. Bah, sinon, en fait, c'est soit t'es zéro, soit t'es à fond, quoi. C'est pas très agréable. Alors, récemment, dans ce cas-là, il y a eu la Watercar en Amérique, qui ressemble un petit peu à une Jeep, mais qui a un moteur V6 Honda de 250 chevaux, ce qui fait que ça envoie pas mal. Et puis, un exemple local pour nous, hein, puisqu'on est en région Centre-Val-de-Loire, et que Hobbycar, c'est le nom de la boîte qui a été créée. Du côté de Tenay dans le Loir-et-Cher, je dis ça parce que était créé parce que, ironie du sort, ça a coulé, hein, c'est comme beaucoup la majorité des boîtes qui ont fait de l'amphibie. Pourtant, ils avaient un chouette modèle, c'était le B612 qui avait un moteur PSA qui faisait 90 chevaux, je crois, qui faisait avancer la voiture à 140 km/h sur route et 15 km/h dans l'eau avec ses petits hydrojets. Donc, c'était un bon compromis pour le coup.
C'était pas très beau, je trouve.
C'était
une voiture coupée, mais tu sais, une petite voiture, genre pas une Twingo, mais un peu, tu vois, dans le même style.
Cabriolet.
Ouais.
Pas
et ouais. Qui flottait à moitié, mais qui flottait, mais assez bas, tu vois.
Oui. Et alors, le truc, c'est que c'était un cabriolet, mais sans capote, donc pas très utilisable au quotidien.
Non.
Et surtout, ça valait l'équivalent de 80 000 balles. Donc,
qui
quid du marché?
Ils en ont produit 600, de... je crois, un truc du genre.
60.
60 oui. Ah, je me suis trompé alors.
Tu peux enlever un zéro. Et encore, ils étaient en faillite à la fin. Il y en a qui n'ont pas été produits jusqu'au bout. Qui ont été, voilà. 60, c'est vraiment en comptant tout. Voilà. Et puis, dernière technologie qui a existé, c'est peut-être la plus simpliste, c'est d'avoir un engin. Je vais même pas dire une voiture parce que c'est souvent des 6 ou des 8 roues fixes. Et tu remplaces le volant par deux manettes qui bloquent l'un d'un côté ou de l'autre. Donc en fait, pour tourner, tu
as un pédalo, le bordel.
Une manette qui bloque et hop, tu dérapes, tu vois. C'est bizarre en fait. Ah. Franchement, c'est bizarre. J'en ai conduit une Ponce hein, qui ont existé avec ce système là. C'est marrant à conduire, mais c'est marrant à conduire deux minutes quoi. C'est à dire, tu fais pas de la route avec ça, tu fais
des
petits
chemins. Mais t'as
des
voitures maintenant qui se conduisent, le gouvernail, c'est le volant.
T'as des voitures.
Certaines voitures amphibies.
Des voitures amphibies, ouais.
Par exemple,
ouais.
La Fiat 500. Ouais. Je sais pas si t'as entendu parler de leur lancement qu'ils ont fait en 2012. Mmh. Pas de la Fiat 500, elle existe depuis bien longtemps.
Mais l'amphibie.
Ouais, ils ont fait une petite com comme ça, hein, je sais pas pourquoi exactement, ouais. Mais ils se sont dit, tiens, on va faire une com sur une voiture amphibie. Ils ont lancé des Fiat 500 à la flotte.
D'accord.
Des voitures amphibies, je précise.
Ouais.
Et ouais, c'était équipé d'un volant et tout. Ils ont fait ça à San Francisco, c'était sympa.
Ah, mais là, c'est pas un volant, c'est vraiment deux manettes, deux leviers, tu vois, que tu fais. Et...
Souvent, moi, ce que j'avais vu des voitures amphibies, ils ont quatre leviers de vitesse. Trois leviers de vitesse, pardon.
Ouais.
Enfin, leviers de vitesse. Trois leviers.
Ouais.
Voilà. Ils ont un volant, ils ont trois pédales. C'est souvent ça. C'est souvent cette configuration-là.
Mais là, c'est pas celle-là.
C'est vrai que celle avec des leviers, le ça coup. Va être sympa aussi.
Là, les leviers, alors dans l'eau, t'avances à 5 km/h. Parce que là, pour le coup, ce sont les roues. Donc 6 ou 8 roues, tu vois. Et ce sont eux qui font rotor et qui font avancer la voiture.
Enfin, ça
qui font avancer, pas vite, hein, mais bon, pour te promener sur un lac, à la limite,
ça
pourquoi
passe.
Pas. Il y a eu pas mal de tentatives en vrai de voitures amphibies, bon, qui ont un peu toutes foirées commercialement, faut pas se le cacher, mais il y a eu des tentatives originales. Alors, t'as parlé de la Fiat 500, il y en a d'autres, t'es dit. Hein.
Oui, bah par exemple, on va taper dans le luxe. Tu te dis, est-ce que c'est possible de combiner les deux? Eh ben oui, monsieur, il y a la Lamborghini Countach. Feu Antoine serait content d'entendre ça.
Oui. Alors, pour moi, c'est pas du luxe, c'est du sport. La Lamborghini.
C'est une hypercar. Non, pas une supercar quand même.
Ouais.
C'est l'une des premières.
Ben c'est ce que je dis, c'est du sport.
Ah merde. Oui, c'est 300 km/h sur route.
Ouais.
Ça
donc
envoie du
elle va aussi vite que la Countach de base.
Voilà. Ouais. Bon, dans l'eau, elle va beaucoup moins vite.
Oui.
Je crois que c'était 50 km/h.
Ah, c'est pas mal déjà. Hein. 50 sur mal, l'eau, t'avances bien. Hein.
T'avances. Ah, comparé aux autres, il y en a qui tapent un peu plus
loin. Il y en a qui vont pas plus loin, mais.
Il y a par exemple la Watercar Python. La Python, ouais, comme le serpent. Elle.
90 km/h.
Oui, c'est ça. Elle détient le record, effectivement, du monde, si on veut. Il n'y a rien d'officiel dans les records d'une voiture les plus rapides.
Pourquoi ils n'ont pas fait des records de vitesse sur l'eau?
Il n'y a pas de.
Faudra organiser
de
ça.
Système de. Ouais, je sais pas. Ils n'ont pas mis en place des critères et tout ça. Donc,
d'accord.
Ça, tous les ans, t'as toujours un nouveau qui dit moi je l'ai dépassé avec ma bagnole.
Mais c'est pas donc, le gars, des Guinness Book des records.
Non, voilà. Donc, oui, 90 km/h sur l'eau. Mm-hmm. Par contre, sur terre, un 0 à 100 en 4 secondes 5.
Ah, bah oui, ça marche bien. Ouais. Oui.
Ça pousse, hein.
C'est quoi
ça...
ton moteur qu'il y a dedans, tu sais?
Non, je ne l'ai pas écrit, je crois.
J'ai la Hydra Spider aussi, avec un litre de Corvette. Pas
oui.
Mal aussi.
Ouais, ouais, elle pousse bien, elle aussi. Ouais. 155 000 €, 85 km/h sur, oui, sur l'eau.
Ouais.
De 2006, en plus, elle n'est pas si vieille que ça, celle-là. Il y a moyen de se faire plaisir. Bon, après, de look...
Bof.
Ouais.
Bah, c'est toujours un peu bizarre, en vrai, les voitures amphibies, parce que tu as les contraintes du bateau, avec la coque en dessous, et ça donne un...
C'est pas beau un bateau d'en dessous, hein, clairement.
Moyen, ouais. J'ai...
Mais bon, peut-être que ça va te paraître beau. On a fait une émission, il y a peu de temps, avec des gros engins.
Ouais.
Des bus, des cars, des poids lourds.
Ah, j'ai vu le bus qui va sur l'eau.
L'amphicoach.
Ouais.
C'est un car qui va sur l'eau.
Ouais.
Effectivement, il va pas très vite, hein, je suis sûr, mais au moins, tu peux aller à l'école avec classe.
Mais c'est nul. C'est nul parce que ça veut dire que dans toutes les conditions météorologiques inimaginables. Il t'emmène quand même au bahut, quoi.
Oui.
Alors que nous, on a une excuse. Genre, chez nous, s'il fait mauvais, s'il y a un peu de neige, etc.
S'il y a 2 cm de
les
neige,
transports
de...
scolaires ne passent pas, tu vois. Là-bas, dans toutes les conditions, le bus passe.
Mais c'est souvent dans les conditions où, de base, ils n'ont pas le choix déjà d'être sur l'eau. Il y a des petits villages sur l'eau que je vois souvent dans les documentaires. Voilà. Ils se déplacent souvent en barque.
Oui.
Là, avoir un petit bus amphibie,
c'est pas
classe,
mal.
Hein, quand même.
C'est-à-dire qu'en fait, le bus, donc, il est en mode bus.
Tu rames plus pour aller à l'école, tu rames à l'école, c'est tout.
c'est ça. Mais t'as une rivière à traverser, hop, il passe en mode bateau. C'est, ouais, oui. C'est vrai que c'est un concept intelligent. Mais pareil, le bas du bus, il est moche. Parce qu'il est en mode coque de bateau.
C'est vrai. Bah, il se voit pas trop, mais oui, effectivement. Nous avons aussi dans l'état d'esprit, je sais pas, mais dans l'esprit en tout cas, une voiture. Si vous pensez voiture amphibie, il y en a une qui va vous venir à l'idée, celle que vous devez connaître le plus. Elle est pas vraiment amphibie, mais elle peut faire amphibie entre guillemets, parce qu'elle est cool aussi.
Elle est juste phibie, c'est comme dans Friends.
C'est la Lotus Esprit S1.
Alors je connais la Lotus Esprit.
Oui.
Mais pas S1.
Parce que ça doit être sous.
Ah, tadam, tadam.
Exactement. Tadam. Celle du film de James Bond, L'espion qui m'aimait.
Ouais. Donc elle est sous-marin.
Elle est sous-marin. Ouais. Dans le film, elle est sous-marin et elle se transforme sur route. C'est un montage. En oui, vrai, la voiture sûr. Qu'ils ont utilisée dans l'eau, elle est
ils
que sous-marin.
Ils
ont fait couler une merveille. Non, elle est juste sous-marin.
D'accord.
Du coup, elle a été mise en vente pour 960 000 euros.
Et il n'y a qu'un milliardaire qui peut acheter ça, on est d'accord.
Il n'y a qu'un milliardaire. Qui d'après toi?
Un milliardaire fan de bagnole?
Ouais.
Alors, c'est pas un footballeur?
Non.
C'est un homme d'affaires?
Oui.
Ouais.
On en parle parce qu'il est fan de bagnole, il crée des bagnoles, il est une marque à lui.
Ah, Elon Musk.
Elon Musk, ouais. Évidemment.
Ouais.
Il t'est fan.
Mais c'est vrai qu'il est fan de bagnole et il est fan aussi de pop culture. Il adore les K2000, il adore les choses comme ça, donc c'est pas étonnant qu'il ait acheté une
aussi.
Voiture de James Bond. Ouais.
Oui. Il l'a acheté et il a été un peu déçu de savoir que.
Qui a roulé pas.
Bah ouais. Du coup, il s'est dit ouais, je vais mettre un moteur électrique et tout, puis on va changer ça. Au final, il a abandonné, il a préféré la laisser comme ça. On boit les couilles.
Ouais.
Mais dans tous les cas, c'est quand même une voiture qui a été produite, attention, 714 exemplaires.
Donc ça veut dire qu'il y avait.
Bah, des gens en voulaient parce que c'était la voiture de James Bond.
Oui, mais elle roulait pas.
Alors, celle dans le film ne roulait pas.
Ah, eux, ils ont pris la version route en fait.
La version route qui allait aussi sans doute dans l'eau, j'imagine. Parce que oui, ça existe, monsieur.
Ouais.
Il y a des voitures, j'en ai même une autre, hein, une autre voiture qui va dans l'eau. La Rinspeed Scuba.
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 Ouais. Ah, Scuba.
Voiture sous-marin.
Ok.
Sous-marine. Ouais. Mais très classe.
Mais ma voiture aussi, elle est sous-marine. Hein. Je veux dire, je la mets dans l'eau, je peux te dire qu'elle va au fond. Hein.
Oui, ah bah oui, mais elle avance pas à 10 km/h.
Ouais.
Tu peux pas. Ça va pas très vite. Tu peux aller à 10 mètres de profondeur à peu près.
D'accord.
Tu roules pas dans l'eau, hein, mais tu. Enfin, si tu es dans l'eau, tu roules pas au sol.
Non, ouais.
C'est pas un char. Enfin, voilà.
Oui.
Tu as au moins 5 heures. D'autonomie, ta bagnole, elle fonctionne sans problème.
D'accord.
Après, il faudrait qu'elle remonte, je crois. J'imagine, prendre de l'oxygène. Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas pourquoi j'espère la voiture doit remonter, mais en tout cas.
J'espère qu'il te le dit parce que.
C'est un coupé, donc il n'y a pas de toit. Donc ça implique aussi.
Non, oui. Un cabriolet, s'il n'y a pas de
cabriolet. Un cabriolet, pardon.
Ouais.
Bah si, elle est coupée aussi, il n'y a que deux places. Coupé cabriolet.
Ça veut rien dire, mais oui.
Ah, mais il n'y a que deux portières.
Ah oui, là c'est un coupé. Voilà. Mais bon, oui, c'est un cabriolet surtout.
Et comment dire ça ça flotte bien, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça roule.
Ouais.
Ça flotte.
Attends,
ça coule.
Oui, non, mais il y a un truc que je fiche pas là.
Ouais.
C'est que tu me dis, elle tient 5 heures dans l'eau.
Ouais.
D'accord. Mais c'est un cabriolet.
Ouais.
Comment tu fais, toi, en tant que personne?
Alors.
Pour tenir ces 5 heures dans l'eau.
Soit t'es champion d'apnée.
Soit il te faut des bouteilles.
Soit il te faut des bouteilles, effectivement. Parce que toi, même des bouteilles, des bonnes bouteilles, ça tient 2 heures en règle générale. Donc,
oui. Donc tu remontes avant la voiture, quoi.
Ouais, souvent tu remontes.
Tu la laisses, place de parking gratuite.
Mais totalement en bord de mer.
Non mais même nous en bord de Loire, au bord de Seine, etc. Tu trouves pas de place à Paris pour
tu
te garer.
Dans la Seine.
Tu laisses la voiture dans la Seine.
Avec les trottinettes électriques partout, hop, tu te mets là, hop, et puis c'est cool.
Bon après, il faut replonger dans la Seine, c'est pas très sain pour la santé.
Ah même techniquement, t'étais déjà dedans.
Oui, oui bah oui, déjà c'était pas sain avant.
En fait, quoi qu'il arrive, dites-vous bien si vous avez une voiture amphibie.
Ne le faites pas dans la Seine.
Flotter c'est bien.
Ouais.
Couler.
C'est
moins
bien,
même dans la mer, des fois c'est chaud, hein. Un petit requin par-ci.
La voiture abandonnée parce que le mec s'est fait bouffer par un requin. Ouais, ou alors ça. Pas une voiture cabriolet quoi.
C'est ça, la Lotus Esprit S1, elle, t'as une coque intégrale donc forcément t'es dedans, t'es tranquille.
Ouais.
Par contre, à savoir combien t'as d'autonomie d'oxygène.
Ah oui.
Parce que autant avec une bouteille.
Ouais, sinon t'as pas longtemps si t'as que le cockpit qui est pas grand.
J'espère qu'ils ont prévu parce que. Eh ben non, nous avons plein de gens qui sont morts dans leur sous-marin. T'imagines un peu le désastre?
Ah oui, bah c'est une nouveauté. Tous les propriétaires de la voiture sont morts, ça serait dommage. Mais bon, après, c'est vrai que globalement, il y a eu beaucoup de propositions. Hein. C'est vrai que des choses sous l'eau, des choses sur l'eau, des choses qui sont à 6 roues, qui sont avec des leviers, etc. etc. Cela dit, malgré cet acharnement à rendre les voitures amphibies cool, ça a toujours été un concept qui n'a pas été hyper au point.
C'est un truc de niche. Ouais. Faut être fan, entre guillemets, puis il faut avoir un espace d'eau aussi, déjà de base.
Oui.
Quand t'habites en ville, t'as pas l'idée.
En fait, le truc, c'est que en mode voiture, c'est moins bien qu'une voiture. Et en mode bateau, c'est moins bien qu'un bateau.
La Lamborghini, elle est bien comme voiture.
La Lamborghini est bien. Ah, ok. Même si la Countach, en tant que voiture, c'est pas ouf. C'est génial comme ligne. Hein. Ouais. Mais en tant que voiture de tous les jours, je ne m'achète pas une Countach.
Ça doit consommer aussi. Hein,
oh, oui. Et puis c'est pas agréable, c'est bon, voilà.
Bah, comme toutes les voitures amphibies, en plus, elles ont un petit truc en
plus. Oui, c'est lourd.
Dans le sens où les coques, ils doivent être forcément hermétiques, les moteurs, plein de choses. Ça doit être fabriqué de manière assez hermétique sur plein de choses. C'est pas très beau, je trouve, en vrai.
C'est pas beau, c'est lourd, ça prend de la place parce que les moteurs de bateau, que ça soit l'hélice ou les motopropulseurs, etc., ça c'est prend de la place. Et c'est un mauvais bateau parce que ça n'a pas été pensé comme tel. Donc, et puis bon, maintenant, de toute façon, avec les lois de sécurité et d'environnement, je suis pas sûr que ça a vraiment un avenir. À moins qu'on arrive à une voiture amphibie électrique qui soit bien optimisée, sait-on jamais.
Oh, Tesla pourrait le faire, hein, je pense.
Bon, c'est ça, ou une autre marque, peu importe, mais.
Oui, c'est sûr.
C'est. Voilà, ça va être compliqué quand même.
Personne
n'a
envie de se lancer. En fait, ça va être que comme a fait Fiat hein, en 2013. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a qui vont se dire tiens, je vais faire une voiture amphibie juste pour le lol, tu vois.
Oui.
Mais ça va pas aller
pour
plus
le
loin
buzz.
Que. Ouais.
Ouais. Non, mais oui, bien sûr.
Petit concept car, on en fait 10, allez, ça fait plaisir à quelques riches. Parce que oui, ça s'adresse aux riches, clairement, parce que je vois pas pourquoi t'achèterais ça.
C'est ça, c'est-à-dire
si
que.
C'est pas pour la mettre dans ton garage et l'utiliser.
Moi, je veux bien en avoir une. Après, il me faut.
Le lac.
Il me faut la. Ouais, la villa, le lac, les bois, etc. Tu vois, à côté, et là, je me dis oui, pourquoi pas. Ouais. Alors, cela dit, par contre, il y a des clubs hein, qui existent de voitures amphibies, il y a des rassemblements. Il y a eu, par exemple, avant le Covid, l'Amphib 2019, il y a à peu près 75 voitures qui étaient venues de toute l'Europe. Donc, ouais, c'est pas mal. Hein,
C'est pas mal.
C'est pas mais quelque chose que forcément j'achèterais perso, sauf si effectivement je suis dans le cadre de.
Par contre, je ferais bien une balade.
Ouais, oui, parce que c'est fun.
Ouais.
C'est fun une voiture. Une voiture
c'est un bateau mais avec des roues.
C'est ça. Fun. D'ailleurs, en parlant de fun, est-ce qu'il y a eu des. Autre que des petits rassos comme ça, mais est-ce qu'il y a des choses marrantes avec des voitures amphibies qui se sont passées, déroulées
Pas que je sache.
Ah.
Pas que je sache. Non, j'ai pas vu de trucs fun, mis à part des fois des voitures amphibies qui se retournaient. Et du coup, qui pouvait plus se remettre dans l'autre sens.
Alors, il l'avait fait. On va reciter Top Gear à l'époque.
Ah, bah voilà,
Top
comme
Gear
par
UK,
hasard.
Qui, à l'époque, avait transformé leur voiture de tous les jours.
La Robin Ralliot.
En voiture amphibie. Alors, non, c'était pas des Robin. Je sais plus ce que c'était comme. Je crois que. Attends, c'était Hammond qui avait pris un combi Volkswagen, un T3. De mémoire.
Ah, il a coupé le haut, ouais.
Non, il n'avait pas coupé le haut, il avait fait une coque de bateau et c'était censé être un minivan aménagé qui va sur l'eau. Bon, vous vous doutez bien que ça flottait pas très bien. Il y avait James qui avait pris, je me rappelle plus ce que c'était, mais là c'est un cabriolet avec une voile à l'ancienne, etc. Mais ça a mal fini. Et il y avait. J'oublie son nom, Jermanon, James May et Jeremy Clarkson, qui lui avait pris un pick-up, voilà, qu'il avait transformé avec deux gros moteurs, énormes moteurs de bateau, et
ça
avait mal terminé, effectivement. Ils avaient fait même plusieurs tentatives. Leur idée première était de traverser la Manche. Et ils l'ont pas fait. Hein.
Ça a déjà été fait.
Mais ils l'ont pas fait avec ce genre de voiture parce qu'ils ont coulé avant de franchir le port.
Hein. Ouais, ce qui est bien, c'est que si tu pars de la Manche, tu vois, des grandes falaises blanches de la Manche, bah, tu sautes de le haut de la falaise et pouf, t'es dans l'eau et tu y vas.
Ah oui.
Mais tu te scratches avant. Je sais pas combien ça peut résister, mais tu sais, tu peux tomber de la falaise dans l'eau.
En voiture, tu veux dire?
Ouais.
Ah oui. Mais t'es mort en arrivant.
Ouais, mais ça peut être marrant.
Donne pas des idées comme ça. Ne le faites surtout pas. Ceci a été réalisé par des professionnels. Ne le reconduisez pas à la maison.
Starter, le garage.
Ce soir, dans le garage de Starter, un paquebot.
Le Queen Mary 2.
Non.
C'est le plus gros paquebot, moi. Là.
Oui, alors ça pourrait, mais sachant qu'on parle...
Le Titanic.
Non, alors celui-là, il coule pas. Non, là on parle de voiture quand même, parce qu'on est dans Starter. Donc on va parler de la Mercedes classe S ou des Mercedes classe S, hein, parce qu'il y a eu un paquet de versions. Mais par contre, une seule et même philosophie, être le porte-étendard de Mercedes, qui mise sur le luxe, sur le confort et sur la technologie. Alors vous allez me dire
sportivité aussi un petit peu, non?
Léger. Ouais, léger. Ouais. Léger.
Et c'est puissant, c'est robuste, c'est
Mais la puissance
fiable.
Est plutôt au service du confort, tu vois.
Oui, oui,
j'ai une bonne voiture qui a de la puissance en réserve, mais je vais pas l'utiliser, tu vois, c'est un petit peu le concept. Vous allez me dire toutes les Mercedes sont un petit peu là-dedans, sauf que la Mercedes Classe S c'est
le must du must.
Au
je trouve
top.
Que c'est une voiture qui me correspond. Entre enfin, un style de bagnole qui me correspond. Ça manque de sport, mais.
Ouais.
Ça non, manque d'un peu de jus.
Pas sûr que t'aies le droit à ça encore.
Non, j'y ai pas le droit. Ouais. Mais c'est une voiture qui correspond à ce que j'aime, je pense.
Oui. Alors, t'achètes une Classe S, effectivement, t'as à dispose que le bas peuple, on va dire, aura dans 15 ans. Hein, c'est un peu ça l'idée générale de la Mercedes Classe S. Il y a toujours eu des hauts de gamme, hein, d'ailleurs, chez Mercedes. Mais la première qu'on peut rentrer dans la catégorie Classe S. Alors, Classe S, d'ailleurs, ça veut dire Sonderklasse. En allemand.
Oui, il y a un bon son.
Ce qu'on peut traduire par classe supérieure ou classe spéciale, tu vois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein.
Ça se voit que c'est allemand.
Oui, ça se voit que c'est allemand. La première, c'est la W100 qui sort en 1965, et qui est dessinée par un certain Paul Braque. Alors, pour le coup, c'est un Français. Voilà, qui va dessiner une voiture qui, au niveau du style, n'est pas révolutionnaire par rapport à la version précédente. D'ailleurs, il y avait même des gens qui la confondent entre la version d'avant et la première Classe S. Par contre, il y avait déjà tous les ingrédients qui font la Classe S, c'est-à-dire que tu avais déjà une version courte pour les riches et une version longue pour les très riches. Voilà, ça te pouvait te distinguer déjà.
Ça a changé de lettre, d'ailleurs.
Oui.
Ça s'appelait la W quand c'était normal. Après, ça passe à la V quand c'est la version longue.
Ouais. Ils ont comme Volvo,
ils ont un code.
Comme ouais. BMW. C'est très allemand déjà, d'une manière générale. Même si les Suédois ont fait pareil, mais une dénomination qui désigne vraiment la c'est version ça. Que t'achètes.
Après, t'as la C pour la coupée, la C, ou CL. Ouais. CL, ça va être un peu après, mais c'est aussi coupé. Et tu as aussi la VV qui est pour.
Qui n'est pas Volkswagen.
Non, mais qui est pas W.
Ouais.
Mais c'est pour la version limousine.
Ouais.
Donc, ouais. Voilà, comme ça vous savez déjà tout ça.
Alors sur la Classe S, tu veux de la sécurité, je t'offre 4 freins à disque et des ceintures à 3 points. Tu veux du confort, voici une suspension à route indépendante à roue, pardon, indépendante à l'arrière. Tu veux de l'équipement, on te propose la clim ou même le chauffage Bizone. Aux États-Unis, ils ont juste fait waouh. Alors ça boîte une voiture allemande. On rappelle qu'on est après-guerre quand même, hein, 65.
On la veut.
On va l'acheter quand même. Ça a donné 400 000 exemplaires de vendus. C'est extraordinaire pour l'époque et pour les marchés. Et ça a donné des ailes à Mercedes qui s'est dit, bon allez, on continue. Ils ont sorti la W116 en 1973, qui en plus avait les 4 vitres électriques, avait la fermeture centralisée. Tu peux avoir en 1978 l'ABS. Et c'est une première. Hein, je rappelle que l'ABS était obligatoire chez nous. Au début des années 2000, anti-blocage système, hein, qui fait que quand tu freines à fond, ça ne te bloque pas les roues et ça ne dérape pas, mais ça.
Ça fait des à-coups.
Ça a fait des à-coups pour que ça optimise le freinage. Ouais. Donc 30 ans plus tard, ça est rendu obligatoire. 78, on l'avait en option sur la Mercedes Classe S. En 79, sort la W126, donc modèle d'après, qui elle te propose l'airbag. Alors c'est pas une totale première mondiale, l'airbag. Cela dit, c'est la première fois que ça marche bien. C'est-à-dire que avant, dans les années 70,
ça te pétait à la gueule, ou ça pétait pas.
En fait, ils se cherchaient dans les années 70, c'est-à-dire que chez Ford, ils avaient testé l'airbag en remplacement des ceintures. Tu vois.
Ah, d'accord.
Là, chez Mercedes, si ce n'est non, les ceintures, c'est quand même vachement utile. On va les garder et on va mettre l'airbag conducteur au début en option pour ceux qui voudraient avoir la sécurité supplémentaire. Et ça marche bien, c'est vrai, ça se déclenche au bon moment, tu vois, ça se déclenche pas
quand t'es à l'arrêt.
Conduire tranquille ou à l'arrêt. Et sort en 88, en option toujours, le deuxième airbag, donc l'airbag passager, qui a été proposé sur cette version-là. Il y a d'autres innovations d'ailleurs en termes de sécurité sur cette version, le fait d'avoir une coquille, une coque qui protège ses occupants, etc. Il y a eu plein de prouesses technologiques en matière de sécurité sur la Mercedes Classe S de cette génération-là. 900 000 exemplaires de vendus, hein, pour la W126, c'est le record absolu en Classe S. C'est la génération qui a été le plus vendue. Et puis en 91 sort la W140 dessinée par un autre Français, c'est Olivier Boulet. Et ça donne quoi, Teddy, cette version-là?
Ça donne plusieurs modèles, hein, comme on l'a dit. Hein,
Ça donne, pour le coup, ça donne un paquebot. Hein. C'est
ça donne un
pas
paquebot.
Très beau, perso. Je suis pas trop fan, mais bon.
Ça, Comment explique ça? Attends, je vais vous prendre une image. On va la décrire ensemble, ouais. comme de la merde. Non, alors en vrai, de look, je trouve ça ressemble un peu, tu sais, au Laguna.
Quoi? Non.
Ah, dans la taille, un peu plus carré.
Bah, c'est beaucoup plus carré, ouais.
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 Mais j'ai dit plus carré.
Ouais. Puis c'est beaucoup plus gros aussi, hein.
C'est plus. ouais, pas. Ah!
Oh, si. Oh.
Ça prend quoi? 50 cm en plus?
Oui, bah, 50 cm, c'est énorme.
C'est pas. Oui, c'est
ouais.
Énorme.
À l'échelle d'une voiture.
Oui, non, mais c'est sûr. Ça a une grosse calandre carrée.
Ouais.
Ça a des phares.
Carré.
Ouais. Aussi gros que la calandre quasiment.
Oui. Alors les phares carrés, mis à part la première génération que j'ai décrite, les W100, qui avaient des phares plutôt en hauteur, mais à partir de la deuxième génération, on a eu ces grosses calandres et on a eu ces phares carrés. Ça, ça ouais. fait partie, si tu veux, dans l'imaginaire
de l'image
de la Mercedes ouais. Classe S qu'on impose. Quoi.
Ce que j'aime pas, par contre, c'est le pare-choc en dessous en plastique. Enfin, en plastique. Il a l'air d'être en plastique là, clairement.
Il est en plastique, mais il est biton en fait.
Il est biton, ouais. Comparé voiture qui est noire métallisée au-dessus, ouais. Et là c'est.
Alors, toutes les versions ne sont pas en biton, mais tu avais ouais. la possibilité effectivement d'avoir le pare-choc, on va dire, d'un gris perlé et le haut un peu plus foncé par exemple.
Sinon, ça reste soft hein, au niveau des poignées, au niveau des rétros carrés et tout ça. Ça reste assez. Si, c'est la classe incarnée, je trouve.
Ouais.
Alors, la Mercedes Classe S, c'est la classe.
C'est la classe. Les poignées ont quand même deux choses. Enfin, les poignées et les portes.
Elles sont intégrées déjà, elles ne dépassent pas.
Déjà, les poignées, alors si elles dépassent, mais elles sont en version, comme les voitures plus modernes, en version porte de frigo.
Ouais, c'est ça.
Tu vois. Et donc, ça, c'est pas mal pour la sécurité, notamment en cas de choc où tu peux facilement ouvrir ta porte pour sortir l'occupant. Et les portes sont, sur cette génération-là, sont soft close.
Qu'est-ce que
normalement, quand tu fermes ta porte de voiture, paf, ça ferme la porte de voiture.
Ah là, d'accord, ça ferme pas totalement.
Là, pense à ce que vous avez par exemple dans votre cuisine. Si vous avez une cuisine aménagée moderne, quand tu fermes ton tiroir, il claque pas le tiroir.
Oui. Il s'arrête au bout d'un moment. Et hop, il ferme,
il se
tout
ferme tout doucement. Et bah c'est pareil pour la Mercedes Classe S de cette génération-là.
C'est un truc coupe-doigt, ça.
Pourquoi?
Bah parce que ton tiroir, même si t'as tes doigts, il va fermer quand même en fait.
Ouais, mais sinon tu te prends la porte sur la gueule, tu te coupes le doigt direct. Là, t'as quand même le temps de le retirer ton doigt.
C'est pas faux. Je dirais même c'est bien vrai.
Ouais. Double vitrage aussi dans les portes de cette version-là.
Double vitrage, elle existe même en blindé.
Ouais.
Elle a été utilisée par Lady Diana.
Oui, elle a été utilisée jusqu'au bout hein, pour le coup, parce que c'est
oui,
avec bah cette voiture qu'elle s'est tuée.
Et même
le pont d'Alma, c'était. Ouais.
Jean-Paul II, il l'avait.
Ah ouais,
il avait une version blindée, ouais. Sans doute la version limousine aussi.
Ouais.
Limousine blindée.
Ouais.
Pourquoi? On sait pas. Bah parce... Était-il fan de bagnole? Je sais pas.
Oh, je pense pas. Mais tu sais, t'as des constructeurs qui ont offert des voitures, que ça soit la reine d'Angleterre ou au pape.
Ah ouais. Alors, ouais. Je sais pas si elles ont été offertes. Je pense pas qu'elles ont été offertes. Elles étaient sur commande.
Ah oui. En version blindée et limousine.
Oui. Déjà, pas tout le monde pouvait l'avoir. Ouais. Fallait s'adresser au service Guard.
C'était Jean-Paul II, hein, tu m'as dit. Qui avait
oui.
cette.
Alors lui.
Parce qu'on lui avait offert une 4L aussi. Hein.
Oui, ouais, une 4L en même temps.
Mais c'est vrai.
Ah, tu offrais un Twingo, ouais, c'est génial. Je vois bien le pape en Twingo. Ah, ce serait génial.
Il y aura pas pour 4L, dit, déjà, l'histoire ne dit pas s'il l'a conduite. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Et non, il l'a transformé en papa mobile. Il a enlevé le capot. Et... Non, je sais pas. Mais bon, c'est quand même une voiture qui a marqué les esprits, ne serait-ce que pour la mort
oui.
de Lady Diana.
Alors malheureusement effectivement.
Mais elle est connue pour ça.
J'avais vu un reportage sur ça et sur la voiture de Lady Diana. Et il s'avère que, bon après c'est à prendre au conditionnel avec des pincettes, mais qu'elle aurait été, comment dire, elle aurait eu une première vie avant où elle aurait été accidentée cette voiture-là. Et elle aurait été entre guillemets remaquillée pour avoir une deuxième vie et ça expliquerait
et ça eu des
possiblement
photos,
ouais. certains
défauts de
conception. Bon, c'est pas la voiture qui s'est plantée clairement. Hein. Il y a eu le pont et la perte de contrôle, mais ça pourrait expliquer cette perte de contrôle sur cette voiture-là. En plus, parce qu'en 95, on parle toujours sécurité et ce qui va avec ESP. Contrôle de trajectoire, ça a été la première voiture à avoir l'ESP sur cette version. On est en 1995, tu vois.
Il y a eu deux recyclages aussi, je crois, sur
celle-là. Ouais, alors ils ont tous eu.
Deux recyclages à peu près. Sur...
Au moins un recyclage. Disons deux versions. Depuis la première, il y a
la
toujours
phase
1,
phase 2.
Phase 1 et phase
2. Il y a une qui a eu des phases 3 aussi.
Ouais.
Pour le moment,
ouais, ouais.
Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est la 221.
En option aussi sur cette version-là, t'avais le GPS.
Ah,
Alors sans écran, ouais, mais t'avais le GPS.
Voilà. Cool.
C'était pas la seule. Hein. T'avais certaines voitures, notamment japonaises, qu'ils proposaient.
Ouais.
Mais on est quand même dans les années 90. Avoir un GPS, c'était ultra rare.
Je l'ai, moi, sur la mienne.
Oui, mais toi, elle est de...
99.
Ouais, ouais. Là, je parle plutôt début 90, c'était hyper rare.
Après la 140, il y a la 220.
Ouais.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Mais bon,
98,
140,
hein.
220, oui, de 98. Principale différence avec la 140, c'est qu'elle perd du poids.
Oui.
Elle a fait un petit régime minceur, parce que oui, c'est une bagnole lourde de base.
Oui, mais elle a été critiquée pour ça, en fait.
Bah oui.
La version d'avant... autant
elle avait peu de défauts, mais...
Bah, au niveau du design, d'ailleurs, elle s'est moins bien vendue. Elle s'est vendue à 450 000 exemplaires. Donc, c'est vrai que par rapport aux 900 000 exemplaires d'avant, c'était quand même beaucoup moins. Mais elle a été critiquée sur le plan du design parce qu'elle était... Enfin, beaucoup la considéraient comme trop massive. Et quelque part, Mercedes a entendu ses critiques. Et sur la version 220 qui paraît en 98,
ils ont quand même fait un petit régime de 200 kg. Cure
de minceur, ouais. Et même en termes de dimension, alors à l'intérieur, ils ont conservé exactement les mêmes côtes intérieures. Mais par contre, à l'extérieur, elle était plus petite que la version précédente.
Alors oui, mais c'est de genre de 5-10 cm.
Oui, mais c'est vrai qu'elle paraît plus fluette quand même.
Oui, parce qu'elle est moins carrée, ouais. Elle est plus dans le biodesign. Ouais. Là, pour le coup, tu ressembles vraiment à une Laguna 2.
Ouais, ah oui.
Ah, je trouve, oui, en vrai, hein, sur les phares et tout ça. La calandre plus petite, les phares en plastique, pour le coup, ouais, ça faisait moins bien, je trouve. Ils sont designés un petit peu...
Bizarrement, on dirait une cacahuète.
Ouais, c'est un peu ça.
Ça fait une forme de cacahuète.
C'est pas super beau. Il y a des baguettes sur le côté grise, pas très belles. Non, franchement, je suis pas très fan du look de la deuxième. C'est pour ça aussi
c'est pas la deuxième, c'est la... Ouais, mais ouais, de 98, quoi.
La deuxième, oui. Mmh.
Mais l'intérieur est vachement cool, je trouve, sur cette version-là. Vachement moderne.
Ils sont toujours au top du top de toute façon avec Mercedes. Oui. Ils ont toujours des avancées dans l'intérieur, comme tu as dit, avec le GPS et tout ça. Dans les versions limousines, ils vont avoir même par moment des vitres. C'était classique, des vitres.
Ouais.
Mais eux, ils vont avoir des vitres avec un seul bouton. Tu changes, tu rends la vitre opaque.
Ah, tu opacifies.
C'est eux qui vont lancer ce truc-là dans les voitures.
Ouais. Sur cette version-là de 98, t'avais quand même. Alors, déjà, tu pouvais l'avoir en 4 roues motrices.
Ouais.
T'avais le régulateur de vitesse adaptatif. C'est pas la première, mais c'est la plus aboutie.
Des précurseurs, ouais.
Ouais. Et en 2002. Tu avais le système de sécurité pré-safe qui permet de se préparer à un choc en verrouillant les portes et les vitres avant de couper le moteur et d'allumer les warnings.
Ça serait con quand même que si tu sautes dans la flotte, ça verrouille les portes
et tu peux plus sortir.
Non, on vous garde en sécurité, mais je meurs là.
Je pense que c'était juste le temps du choc. Mais en tous les cas, il y avait ce système-là qui permettait de...
Faut pas percuter un rocher dans l'eau.
Ouais.
C'est pas un sous-marin.
C'est pas mal quand même. Enfin, c'est bien pensé.
C'est plutôt bien pensé. Tout comme la 221 qui va sortir en 2005.
Ouais.
Existe en coupé. Juste en coupé. Elle existe aussi en limousine.
En version limousine.
Elles existent tous en version limousine. Celle-là va avoir un moteur en V. Avant toutes quasiment jusqu'à 12 cylindres, hein, mais bon.
Oui, bah attends, un petit V12, ça rend bien.
Ah. Ça rend bien. Oui. Bon, c'est lourd quand
c'est
même.
Toi, hein, papa, ouais. Pas. Oui.
Et elle va aussi avoir un système de transmission automatique formatique. J'adore le petit
formatique.
Jeu de...
Ouais. Tu dirais, c'est l'informatique.
Ouais, mais c'est ça.
Ouais.
Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'une transmission intégrale, Théo ?
Intégrale, bah, c'est 4 roues motrices, mais je l'ai dit juste avant. Oh.
Oui. N'écoutons pas cette personne. elle a subi un petit restylage aussi en 2009. La calandre plus grosse,
oui,
plus imposante. J'aime bien les calandres grosses.
Oui, mais plus bling bling, je trouve.
Plus bling bling, non mais clairement, ça redevient un peu classe, je trouve.
Je
suis pas fan de l'arrière. L'arrière, il devient trop. C'est moins tricor.
Oui, si on veut. Ouais.
Je sais pas si c'est vraiment tricor ou pas.
C'est la première, si tu veux, qui a été conçue pour le marché chinois.
Ouais.
Et du coup, ça donne quelque chose. Enfin, moi, je suis moins fan parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pas essentiels au luxe, mais qui portent plus dans le bling bling que dans le luxe, tu vois.
Les phares LED.
Pas les phares LED, non. Parce qu'on va dire que c'est une tendance globale. Mais par exemple, tu as une horloge à l'intérieur, tu sais, façon truc de luxe, mais qui fait bling bling, quoi. Qui fait pas luxe.
D'accord.
Je trouve. Après, c'est perso.
Il y a son pare-choc aussi qui était carré avant. Il est plus carré. Ouais. Je trouve ça un peu du gâchis. Mais bon, c'est plus aérodynamique.
Et les passages de roues aussi qui sont vachement marqués.
Les passages de roues. Les rétros aussi. Très bizarre sur la bagnole. Ouais. Très bizarre sur celle-là parce que la bagnole est très arrondie. Hein. Comme on l'a dit, on est passé au biodesign. Les rétros, ils se sont dit, on les met carrés. Alors, et ben ils sont carrés comparé au reste de la bagnole qui est tout en arrondi. Ouais, t'as pas de droite.
T'as pas de cohérence. Quoi.
Ça n'a pas de cohérence. Et puis ils sont minces. Ouais. Si vous les regardez bien, ils sont petits comparé à la bagnole. C'est pas très beau. Clairement, je suis pas très fan de celle-là. Mais bon.
Moi non plus. C'est une des versions où je suis moins fan.
On va pas se mentir. Ça reste une voiture jolie. Ah, mais oui. Voilà, on a le droit d'être fan ou pas. En 2022 sort.
Eh, hey, t'en as oublié une.
C'est pas en 2020, non, pardon, c'est pas en 2022, c'est la 222.
Ah oui, c'est ça.
Il y a trop de 2 là-dedans.
222 en 2013, c'est
mais
ça.
Mais oui, on passe de 140 à 221, enfin 220. Oui. C'est dur, c'est dur. Donc, en 2013 sort la 222. Mm-hmm. Il va y avoir une phase 1 et une phase 2.
Ouais.
Dans la phase 2, il va y avoir des petits changements aussi très sympas, je trouve. Avec notamment les feux, ils vont éclairer différemment. Ils vont avoir ce qu'ils appellent une nouvelle signature lumineuse, trois bandes, cher.
Ouais.
Je sais pas vraiment ce que ça veut dire.
Les signatures lumineuses, mieux, alors ça, c'est quelque chose qui est très tendance actuellement. Parce que depuis.
Quoi, tu fais des petits symboles, tu fais des ombres chinoises
c'est un peu ça. Non, ouais. En fait,
c'est comment t'éclaires
ça
la route.
Fait une dizaine d'années, on va dire maintenant, qu'on a pris en main et que c'est devenu raisonnable en termes de prix le fait de mettre des éclairages à LED sur les voitures.
Ouais.
Donc d'abord sur le haut de gamme et puis après c'est descendu en gamme. Le fait de pouvoir mettre de l'éclairage à LED, ça a autorisé le fait de pouvoir créer ce qu'on appelle une signature lumineuse, c'est-à-dire de mettre des formes dans les phares, fait que la nuit tu reconnais telle ou telle voiture. On le voit, chaque marque maintenant a des signatures lumineuses. On prend Peugeot avec ses fameux crocs, on prend les Renault avec l'espèce de C, etc. Donc tout chacun. Ouais, c'est des crocs, ouais, les dents de requin là qui descendent.
Ah, ouais.
Mais chaque marque en fait s'est dit bon, il faut qu'on crée notre signature lumineuse pour qu'on puisse reconnaître notre voiture dans le noir. Et forcément, les marques haut de gamme telles que Mercedes ont pu le faire avant les marques généralistes parce que c'était les LED qui étaient encore un petit peu plus chères à l'époque. On pouvait se le permettre.
Ouais.
On pouvait pas se le permettre sur une Twingo par exemple.
C'est pareil pour les feux arrière, c'est des diodes, du coup, j'imagine aussi pour faire une signature lumineuse,
ouais,
c'est très sympa.
Tu peux faire maintenant tu fais des effets 3D, tu fais plein de choses en fait avec les LED.
Reparlons de la calandre, s'il vous plaît, monsieur.
Ouais.
Elle s'est agrandie encore.
Oui, parce qu'elle s'était rétrécie partir de celle de 98. Elle était plus petite que les versions.
Alors la
140,
voilà, elle avait une certaine taille. La 220, elle avait réduit.
Ouais.
La 221, elle a augmenté. La 222, elle augmente encore.
Ouais.
Là, ils sont repartis. Vas-y, on
et
peut mettre de la calandre.
Elle a augmenté encore. Allez.
Ça fait presque de la voiture américaine avec une calandre comme ça. Hein.
Mais c'est. Alors,
c'est juste que c'est dommage que c'est rond.
Je vois l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, une Mercedes, classe S. Ça doit en imposer. Et la calandre, et même si maintenant ça serait même moins utile, surtout sur les versions hybrides ou électriques, tu vois.
Mais, c'est clair.
Mais il faut qu'il y ait une grosse calandre. Parce que la calandre, plus la calandre est grosse en vrai, plus ça veut dire que t'as de l'argent. Quoi. C'est, tu vois, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ça.
Sur les côtés, ils ont toujours des baguettes, mais vers le bas, hein, plutôt cette fois-ci, le châssis, je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, ils ont mis un espèce de creuset, enfin, je sais pas comment dire. Ils ont mis des courbes dans les portières,
ouais.
Que je trouve vachement sympa. C'est très joli, c'est un petit effet de boss.
Oui, et puis ça permet de fluidifier un petit peu la ligne, ça la
bien
rend
sûr.
Moins massive.
Oui. Les phares, ils sont redevenus ronds, c'est bien. Ils ont tout compris à la vie.
Rond, comment ça?
Rond ovale.
Ah oui, oui.
Pas non, carré, quoi.
Ouais.
Arrondi.
Pas carré, mais arrondi, mais toujours cette forme. Enfin. Ouais, non, moins qui en impose moins, je trouve, que les versions d'avant. Mais, mais plus
sûr.
Que la version cacahuète.
Mais ils sont mieux. Ah non, j'ai dit les phares.
Oui.
Ah non, c'était pas les phares que je voulais dire, c'était les rétros. Pardon.
Ah, les rétros.
Les rétros ne sont plus carrés, ils sont redevenus ronds.
Ouais.
Ça, c'est mieux.
Oui.
Oui, les phares, non, ils sont très jolis, clairement, hein, mais ils sont un peu plus petits, ils sont plus bleus. Parce que oui, on voit le
xénon.
Le xénon, voilà. C'est joli, c'est joli.
Et par contre, alors en 2013, là, sur cette version-là, il y a pour la première fois aussi une caméra stéréoscopique qui va scanner la route à 15 mètres devant et qui va, en fonction de l'état de la route, adapter la suspension. C'est-à-dire que par exemple, il voit que la route, il y a une bosse, et ben il va faire en sorte de rendre, alors je sais pas quel
les
tarage de,
plus doux,
voilà, pour absorber la bosse. Ils vont prédire en fait ce que tu vas affronter comme obstacle sur la route.
C'est un peu de la conduite autonome de stade.
Non, c'est pas de la conduite autonome. C'est de la, comment dire,
de l'aide à la conduite.
C'est pas de l'aide non plus. C'est juste qu'en fait tu vas
de l'aide passive.
Non.
Un soutien passif.
Comment expliquer?
Non, un bonus passif.
Non, c'est en fait ça va adapter ta suspension à l'état de la route, donc ça va faire en sorte que ça soit toujours optimum en termes de confort. C'est juste du confort en fait.
C'est un bonus.
Tu vois, c'est un bonus confort.
Ouais. Bon, je vois. Dans la 222 en 2014, elle est sortie en 2013. Et ben en 2014, ils ont fait une série qui s'appelle la Maybar,
ouais.
Maybar, oui. Ouais, ça finit par CH. Ils sont chiants. Hein.
Oui, bah ça.
Maybar classe S.
Ouais.
Et la Maybar classe S. Non. Si. Version Pullman.
Ouais. Alors qu'on explique un
petit
peu.
Qu'est-ce que c'est que la version Pullman, monsieur Théo?
Déjà, je vais surtout expliquer
la Maybar. Ok.
Parce que Maybar étant une marque à l'origine,
ouais,
qui a disparu dans les années bissextiles, et qui a été ressuscité par Mercedes dans les années 2000, où ils avaient sorti une Maybar sous la marque Maybar, qui était plus luxueuse qu'une Mercedes classe S, plus luxueuse qu'une Mercedes tout court en fait.
Donc ils se sont dit, toi tu meurs, ils l'ont racheté.
Ouais, voilà. Ils avaient racheté la marque et ils avaient voulu la ressusciter. Sauf que elle ne parlait plus à personne, cette marque, parce qu'elle était morte peut-être, je dis peut-être une bêtise, hein, mais dans les années 50 ou 60. Et du coup, de la faire ressusciter dans les années 2000, les gens qui avaient énormément de fric, ils achetaient pas une Maybar. Ils achetaient une Rolls, ils achetaient, mais pas une Maybar.
Oui, Mercedes.
Bah, même pas, tu vois, non, Mercedes, c'est, on va dire, quelque part, c'est pour les riches, mais c'est pas pour les très, 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 très riches.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, ils achetaient une Rolls. Donc, la Maybar ressuscitée n'a pas fonctionné, ça fait un peu un bide. Donc, ce qu'ils se sont dit, bah, ils avaient quand même racheté la marque, ils se sont dit, on va l'utiliser. Donc, ils ont intégré la Maybar dans le nom pour dire c'est la version la plus luxueuse du modèle de chez Mercedes, le plus luxueux. Donc ça donne la Mercedes Classe S version Maybar. Voilà.
Qui
et Pullman, quand on a dit un confort Pullman, c'est, ah là, c'est, on parle de luxe.
C'est le papy là.
Ouais, 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 on est bien quand on a une version Pullman.
La Maybar se voulait concurrente de la Rolls-Royce Phantom,
ouais,
ou Ghost, hein, comme vous voulez. Mm-hmm. Concurrente de la Mulsanne.
Ouais, de chez qui?
À tes souhaits. Je sais pas.
D'accord.
J'en ai aucune idée. J'ai,
attends,
j'ai demandé, j'ai pas su. Et aussi de la Bentley Flying Spur.
Flying in the Sky.
Flying in Spur.
Ok. Voilà,
c'est super anglais des familles. Hein.
Ouais.
Donc, oui, ils ont fait plein de petites versions sympas.
C'est une Bentley, hein, la Bentley Mulsanne.
D'accord, c'est pour ça qu'il y avait Bentley avant.
Ouais,
ouais, c'est logique.
C'est pour ça.
Hey, putain, ils sont forts. Oui, donc voilà. Il y a aussi plus récent, hein, de 2021,
mm-hmm,
la 224.
3.
Non, c'est 3, je sais. C'était pour voir si tu suivais.
Je suis.
Alors, celle-là, elle est aboutie à un certain niveau de pilotage autonome.
Ouais.
Mais en stade 3, pas disponible chez nous.
Oui.
Mais en stade 3.
C'est l'ironie du sort, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en Amérique, elle est disponible en stade 3. Donc stade,
voilà,
3, ça veut dire que
jusqu'à 130 km/h, elle peut quasiment faire, elle peut rouler.
Alors pas sur toutes les routes, il y a des conditions.
Pas
quand
sur
même,
toutes les routes, ouais, elle peut pas être en ville ou quoi que ce soit, elle va avoir du mal.
Ouais, il y a certaines
trucs,
voies où,
voilà,
ils te l'autorisent et d'autres non. Mais en Europe, on n'a pas, l'Europe n'a pas validé,
on
encore
pas besoin de
la conduite
de
autonome
la
niveau 3. Donc on peut pas, l'option n'est pas disponible en Europe, quoi.
Ouais. Mais par contre, cette petite Mercedes là.
Ouais, enfin, cette petite. cette petite,
oui,
grosse Mercedes.
Alors,
ouais,
on est toujours sur du 5 mètres et 20,
ouais,
30,
ouais,
centimètres,
ouais,
un truc du genre.
Ouais.
Hein. Les phares, ils se sont affinés.
Mm-hmm.
Mais affinés, agressifs.
Hein. Ouais.
Petit regard agressif quand même. Grosse calandre.
C'est qui le patron, quoi?
Grosse calandre, alors je dirais, je la trouve
énorme,
un peu moche.
Énorme calandre.
Énorme, mais on dirait qu'elle a un pif au milieu.
Ah, c'est toutes les aides avec les caméras, etc.
C'est ça, il y a, ouais, une caméra au-dessus, puis
oui,
ça fait une espèce de plaque de,
ouais, ouais, ouais,
plexiglas,
ouais,
dégueulasse.
Ouais, qui renferme effectivement tout le contenu technologique. Quoi.
Après, t'as tous les capteurs un peu partout devant, que tu vois les petits ronds et tout ça.
Oui,
je trouve,
oui,
ça,
oui,
moche, en vrai.
Bah, c'est vrai que c'est, sur le plan du style, c'est pas hyper joli. Après,
ouais,
on a du mal à les camoufler. Alors maintenant, certaines, par exemple, chez Peugeot, ils arrivent sur la dernière 308, ils l'ont intégré dans le logo. Peugeot. Donc c'est plutôt bien fait. Mais bon, l'étoile Mercedes est toujours en haut, donc il fallait bien le mettre quelque part.
Ils ont supprimé l'espèce de petite vague que je voyais sur les côtés ah oui. Que j'aimais bien. Bon bah tant pis. Les phares, bah là ils sont pliés de celle-là, mais ils sont ronds.
Ouais.
Enfin ronds.
Arrondis. Ils sont tous en forme de triangle, on va dire. C'est, ouais.
Le pare-choc, par contre, il s'est bien rétréci, je trouve. Pas le pare-choc. Oh putain. Le pare-brise, t'es dit. Le pare-brise. Ouais. Autant sur la 222, ils avaient fait un grand pare-brise, pas panoramique, mais pas loin, je pense. Ouais. Autant sur celui-là,
c'est classique.
Ouais, il est devenu petit. Alors peut-être qu'il y a un toit en verre au-dessus, hein, mais là je le vois pas sur la photo.
Ouais, ça dépend certainement des versions. Hein. Ouais.
Oui, bah oui, effectivement, ça doit être en option évidemment. Mm-hmm. Je parie qu'il y ait sur le modèle VV.
Oui, tu l'as. À l'arrière et avec bien un sûr. Store et tu fais, hey, Mercedes, ferme le store du haut. Et là, Mercedes, elle te ferme le store du haut.
Ça le fait à l'oral. Ah, c'est aussi sur ces voitures-là, comme je vous disais, qu'il y avait les vitres avec un bouton, paf, c'est opaque, tu vois conducteur.
Ah bah, l'intérieur en vrai il est ouf sur cette version, c'est-à-dire que t'as des écrans, t'as un écran 12 pouces, alors on va dire d'inspiration Tesla, mais il est énorme.
La version limousine a fait plus de 6,50 m.
Ouais, et tu peux avoir sur la version limousine, même je crois que sur la version normale, mais le pack business, là tu peux te prendre pour un milliardaire à Dubaï, hein. Bon, en même temps tu l'as déjà acheté au moins 160 000 balles ta voiture, donc tu peux. Tu as à l'arrière le siège. Donc qui s'incline en version couchette, etc. La petite tablette qui se met pour pouvoir travailler dans la voiture. Les écrans qui sont là. Alors soit tu commandes effectivement avec
47 Mercedes, monsieur. 47 cm.
C'est énorme. Et donc soit tu commandes avec la fonction Mercedes. Et là tu peux tout dire. Et en plus elle connaît ta position. Ça veut dire que t'es à l'arrière droit parce que c'est la meilleure place. Hein. Comme ça t'as le siège avant qui s'avance et t'es en version grand confort. Tu dis allume la lumière. Elle va t'allumer le spot qui est de ton côté parce qu'elle a repéré où tu étais. Ferme le rideau, elle va te fermer le rideau de ton côté parce qu'elle sait où tu es, tu vois.
Et ça, tu peux le commander
soit par la voix, soit avec une petite tablette tactile qui est dispo au milieu de la console centrale. Et là, tu fais tout ce que tu veux avec ta voiture. Ouais.
T'as même 4 sièges. Enfin, dans certains modèles, tu peux l'avoir en deux versions. Tu peux l'avoir, comment dire, juste deux sièges.
Oui.
Et tu peux l'avoir aussi en siège en vis-à-vis, donc ça veut dire face à face.
Ah, sur la version limousine. Ah oui, version taxi anglais quoi.
Version taxi anglais, ouais, clairement.
Sauf que t'as plus d'espace là pour.
Oui, t'as plus d'espace et t'es tout seul souvent.
Oui, donc rien ne sert d'avoir.
Qu'est-ce que tu fais avec
la classe? Si t'invites les amis. Ouais.
Oh, la teuf dans ma limousine. Ouais,
la teuf dans la classe S quoi, ouais.
Si tu veux louer une limousine, je pense qu'une Mercedes classe S, tu en imposes.
Oui. Après ça montre rapidement que t'es pas riche, t'es riche. Le samedi soir, quoi, quand
t'es
tu
es riche pour louer une bagnole.
Il est riche du samedi soir. Bon, en tous les cas, ce qui rassemble tous ces modèles de classe S, c'est le fait que t'as l'étoile au bout du capot. Alors, ça, c'est vrai que sur les versions. Ça le faisait beaucoup dans les versions des années 80 et 90, ils avaient quasiment tout ça, les Mercedes. Mais maintenant, tu n'as ça plus que sur les versions classe S ou les versions de gamme. Au niveau du design, ce qui est marrant, c'est que si vous vous intéressez un petit peu au design Mercedes, tout ce que tu as sur la classe S, tu le retrouves, tous les codes stylistiques que tu retrouves sur la classe S, tu les retrouves après sur les modèles inférieurs. Sur Mercedes, donc parler de bas de gamme, c'est pas
la Twingo non plus.
Mais tu retrouves ces codes stylistiques sur les autres Mercedes. Ouais. Et pareil sur les équipements, c'est-à-dire que tu as déjà d'abord les choses sur la classe S et ensuite sur les autres. Même si c'est un petit peu en train de changer quand même, parce que si vous avez vu la EQS, qui est la version Mercedes électrique haut de gamme de la gamme, franchement, elle a franchi un pas technologiquement. Je vais pas dire que ça la ringardise la classe S, parce qu'en plus elle est sortie en 2021, mais sur la EQS, tu as la possibilité par exemple d'avoir sur le tableau de bord un écran de gauche de la planche de bord à droite de la planche de bord. L'écran, en fait, il fait toute la planche de bord.
C'est la vitre.
Oui, c'est vraiment, ça fait l'intégralité. Et tu vois, pour le coup, avec ta petite classe S, où t'as un écran 12 pouces, tu dis oh, c'est ridicule! Voilà, alors que là t'as tout. Bon, en vrai, c'est pas ridicule, mais. C'est vrai que technologiquement, ils ont beaucoup misé, même sur le plan du style, qu'ils ont changé pas mal le style Mercedes sur la EQS. Peut-être que ça se répercutera sur le reste de la gamme. À voir. Toujours est-il que sur le marché de la berline haut de gamme, je vais même dire de luxe, hein, la Mercedes Classe S a toujours été la voiture la plus vendue, que ce soit en Europe, aux États-Unis, où ils en ont vendu des pelletés, et maintenant en Chine. C'est la référence, c'est un incontournable. Voilà. Maintenant, imaginons que je ne sois pas millionnaire, Teddy.
Ah,
parce que
bah,
je ne suis pas millionnaire.
Oui.
Ah, et que je veux quand même une Mercedes Classe S. Est-ce
Alors,
que
oui.
je peux espérer trouver un modèle à pas trop cher?
Alors non. Non, non, tu vas prendre très cher hein, pour le coup, ça vaut extrêmement cher. Même
les modèles,
d'occasion.
Ouais.
Je recherche ma page, je l'ai perdue.
Ah.
C'est con. Ça pique. Et puis ma page, je ne la retrouve pas. Alors comme ça, c'est sympa. Il me propose des buggy d'occasion.
C'est pas exactement la même chose.
C'est pas exactement d'occasion.
Non, alors. Mais parce que t'as quand même des modèles. Pour moi, il y a quand même des modèles. Si je prends. Comment elle s'appelle, celle dont tu as parlé au début là, celle des versions.
La 140 ?
Ouais, la 140. Ouais. C'est pas excessif en prix. Alors, c'est un budget immense à l'entretien. Mais à l'achat, y a, tu sais, il y a nos confrères de chez Villebrequin, là, Sylvain,
oui.
Il s'en est acheté une. Une BMW 140 avec toutes les options, etc.
Ouais.
Bon, il a pas acheté super cher. Par contre, à l'entretien, c'est un gouffre, hein. Faut pas acheter ça. Hein.
C'est ce qu'il a dit.
Ne faites pas.
J'ai des prix, putain, j'ai des fourchettes de prix, mon pote.
Qui sont.
Tu vas flipper,
large.
Hein. Il y en a, ils sont de 5000 à
ouais.
40 000.
Ouais. ouais, bah selon l'état et puis selon la version, parce que.
Bah ouais, il y a plein de déclinaisons possibles, mais là, ça va loin. Entre les lettres et tout ça, effectivement, là, tu vois, par exemple, oh, la Benz, oh putain, c'est joli. Il y a une violette en vente.
Ah, tu veux la violette.
Je veux la violette, c'est violette. Tellement classe. Ouais. Mais oui, en plus, comment dire, il y a des options de personnalisation, surtout quand vous achetez les limousines ou les rallongées, ça rend un peu la voiture
unique.
Un petit peu unique.
Ouais.
Donc forcément, ça va pas valoir le même prix quand tu vas la revendre.
Ouais.
Donc... Grosse fourchette, hein, mais bon, vous en avez des pas trop chers.
Ouais.
Des classes S, vous en avez à 5000 balles.
Ouais.
Là, tu vois, j'en ai une, elle a même pas 100 000 km. 4700, classe S. V8.
T'es quelle génération ça?
Ah non, elle est HS celle-là.
Ah, il n'y a plus le moteur.
Merde. Raté. Celle-là, c'était quelle génération? À 2004. C'était la
okay.
200.
Ouais, non, mais ouais, ah, ok, celle des années 2000. Okay.
Oui, oui, oui. Ouais. Je suis
sorti en
98. De oh, une de 66.
Ouais.
Oh, alors ça, c'est bien, bien avant.
Cher.
Oui. Bien. Oh, 16 000.
Ah, ça va.
Ah, franchement, ça va.
Ah oui.
C'est la Mercedes Classe S Benz 250.
Ok.
Ouais. Voilà, bah les couilles. De 66.
Ouais.
Donc 83 000 km.
C'est la première dont j'ai parlé avec les phares qui sont en hauteur.
Je sais pas si c'est celle-là. Dis-moi, ressemble-t-elle à la voiture que tu aimes? Je ne crois pas.
Si,
ce
si,
pas
c'est, celle-là. Si, si c'est celle-là, c'est la première génération. Ouais. Ouais.
Mais c'est... Ah, là, je viens de trouver une 140 limousine.
Ouais.
7000 euros, mais 200 000 au compteur quand même.
Ouais, ouais. C'est pas excessif en vrai.
C'est
par rapport
pas
au,
si
au prix du neuf qui est absolument hyper cher. Hein, mais ouais. Là, je crois que la dernière version elle débute aux alentours de 100 000 euros. Pour aller jusqu'à 200 000 euros. Hein, grosse fourchette de prix, mais c'est vrai qu'en version limousine avec toutes les options, etc., on est plus vers le 200 000 que vers le 100 000. Donc, neuf, ça vaut une fortune, et ça valait une fortune déjà à l'époque.
Ah
mais
ouais.
En occasion, ça vaut pas si cher. Cela dit, encore une fois, c'est une mauvaise idée, si vous
Je
n'avez pas les moyens
que...
de l'entretenir, d'acheter une Mercedes Classe S.
Vous comptez 10 000 balles à peu près,
oui.
En moyenne, et après, oui, vous avez tous les frais d'entretien qui sont immenses.
Ouais, voilà. Donc, faut pas se dire, tiens, qu'est-ce
Puis
que j'achète
bouffe, hein.
Une Clio ou une Classe S, et j'aurai le même budget par la suite. C'est pas le bon plan.
Déjà, avec le prix de l'essence en ce moment, c'est pas un bon, parce
ouais.
que ça bouffe, hein,
ah
quand
bah
même.
Ça, ouais,
c'est
ça
lourd
boit,
et
ouais.
ça boit. Hein,
ouais,
ça,
ouais, on est d'accord.
Donc oui, après, niveau pièces, c'est quand même du Mercedes, je vous rappelle. Donc même une pièce de Mercedes...
Ah bah c'est le quadruple de ta Clio.
Ça fait
hein.
mal.
Ah,
oui. ouais.
Puis il y a des pièces spécifiques en plus.
Il y a des pièces spécifiques.
Et sur les versions antérieures qui deviennent rares, parce que malgré que ce soit bien vendu, le fait qu'il y ait beaucoup de versions différentes et qu'il y ait des versions avec des options qui soient peu répandues, faut les retrouver, tu vois.
Ouais.
Et puis ça a potentiellement.
Et t'as celles qui avaient les options, donc il y a certaines qui ont des petits trucs en plus que d'autres n'ont pas, donc
oui.
tu peux rechercher
oui.
ça.
Il faut trouver la bonne chose. Et puis
ouais.
le fait que ça soit bourré de technologie et que ce soit souvent les premières voitures avec cette technologie là, malgré tout le soin apporté par Mercedes et la solidité qu'on connaît, alors sauf sur les versions 2000-2005, n'achetez pas ces versions-là parce que c'est les versions les moins fiables. Mais avant, on peut se dire c'est du solide. Cela dit, c'est du solide, sauf que si la bagnole a 30-40 ans et que bah malheureusement ton module il tombe en panne parce que vieillesse, il faut pouvoir le retrouver. C'est pas gagné quoi.
Auto, moto, c'est Starter sur Indestar.
Eh oui, Starter, Starter qui continue et qui
Starter
se termine.
Starter qui se finit bientôt.
Bah ouais, bah oui, évidemment. Bon, on va vous laisser à un moment donné dormir. Hein. Mais avant, on a plein de choses à vous dire, notamment sur les insolites. Parce que il s'en passe des choses dans le monde avec des voitures, avec des motos, avec du moteur. Moi, je vais vous parler des policiers.
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait,
les policiers allemands. Ils m'ont rien fait personnellement. Ah. Les policiers allemands étaient au bord de la route, d'accord ? C'était ouais. En mars. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font au bord de la route, généralement, les policiers ?
Ils t'arrêtent !
Ils mettent un
radar.
Un radar, voilà, qui te contrôle la vitesse. Donc, ils mettent leur radar, ils vont un peu plus loin avec leur voiture se cacher dans les broussailles pour que personne les voit, et puis ils attendent. Puis au bout d'un moment, ils se disent, bah tiens, c'est bizarre, il n'y a personne qui fait des excès de vitesse. Donc, ils reviennent à l'endroit où ils avaient posé leur radar. Oui. Ils s'étaient fait voler leur radar. C'est-à-dire que pendant que les mecs étaient un peu plus loin, ils n'avaient certainement pas de visuel sur le radar, tu vois. Et ben, il y a un mec qui est passé, il s'est dit, oh,
un trépied,
un radar, un trépied pour ma caméra. Donc ils ont embarqué le radar, quoi. Voilà. 30 000 balles excellent. Envolées dans la nature. Alors je sais pas trop ce qu'ils vont en faire de ce radar, mais les flics allemands ont perdu 30 000 euros de radar quoi.
Voilà. Alors moi j'avais vu une autre info assez sympa. Alors je sais plus quelle nationalité il est. Peu importe, on s'en fout. Un gars, Il a customisé sa bagnole. Il a mis des équipements de dingue pour qu'il puisse rouler dans n'importe quelle condition et ne pas se faire choper par un radar. Il pouvait burn avec sa bagnole, il pouvait passer à 300, le radar ne pouvait pas le flasher.
Genre cap d'invisibilité quoi.
Un petit peu, brouillage électronique et tout ça, parce que c'était pas un genre de système comme dans Taxi où il tourne la plaque.
Allez l'OM.
Voilà. Non, c'était des systèmes électroniques qui empêchaient le radar entre guillemets de prendre en photo la bagnole.
Ok.
Donc même quand t'avais les flics avec le radar, ils ne pouvaient pas, ils pouvaient rien faire.
Ah ouais.
Sauf qu'ils l'ont chopé à la course poursuite.
Oui, bah voilà, c'est ce que j'allais dire.
Pas de bol. Ouais. Donc il s'est fait choper, ils ont vu tous les équipements.
Ouais, il a dû prendre cher.
Ouais, il va prendre cher.
Bah, c'est le problème, hein. C'est-à-dire que si tu veux jouer au con, à un moment donné, tu te fais choper, t'en as pour perpétuité là.
Ouais, il va prendre cher, je pense.
Ouais, il va rouler à pied maintenant.
Starter, le sondage.
Vous déménagez. C'est une supposition. Dans un environnement différent. Par exemple, vous êtes à la ville, vous allez à la montagne, à la campagne, enfin, où vous pouvez vous dire à un moment donné, ma voiture n'est pas totalement adaptée à mon nouvel environnement. Est-ce que vous changez de voiture pour une plus adaptée ou est-ce que vous restez avec celle que vous aimez tant ? On vous pose la question, oui, non, il n'y a même pas de peut-être. Vous choisissez. On va vous mettre le sondage sur les réseaux sociaux, page Facebook Indestar ou alors le compte Instagram, hein, c'est en story, Indestar Radio. Vous nous rejoignez sur Insta et vous pourrez voter. On fait le débrief la semaine prochaine à partir de 21h dans Starter sur Indestar. Ce sera lundi prochain.
Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.